Vous écoutez, on lit pour vous.
Les régions du Québec aux mille visages de l'immigration. Un texte d'Ismaël Oudacine paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir. Loin du tumulte des grandes villes, une autre forme d'immigration se dessine, souvent méconnue, mais profondément transformatrice. Dans « Être chez nous », son premier livre, le journaliste Jean-Louis Bordeloux sillonne le Québec rural à la rencontre de nouveaux arrivants venus du Sénégal, du Liban, des Philippines ou du Mexique. Au fil d'une belle brochette de récits, il brosse le portrait d'un territoire en pleine évolution, tout en bousculant les idées reçues sur les régions et ceux qui les habitent. Jean-Louis Bordeloux, 32 ans, est originaire de Boucherville. Assez tôt dans sa carrière, il regarde au-delà de Montréal. « Ce n'était pas nécessairement là que je voulais vivre, même si j'y suis aujourd'hui un peu par dépit », déclare-t-il en entrevue téléphonique. Diplômé de l'Université Laval, Jean-Louis Bordeloux fait ses premières armes à cette île pour Radio-Canada, une expérience décisive qui lui donne la piqûre du métier. En 2020, il se joint à la rédaction du Devoir avec un mandat taillé sur mesure, couvrir l'immigration en région. Le rêve, lance-t-il. Une semaine par mois, il prend la route pour documenter un Québec souvent oublié des projecteurs. J'essaie de faire le pont entre le Québec urbain et rural. Il y a parfois des incompréhensions de part et d'autre, constate-t-il. Cette immersion constante sur le terrain nourrit directement son travail. C'est d'ailleurs de cette matière accumulée au fil des reportages qu'est né cet ouvrage au titre évocateur. Son livre réunit une sélection de textes parus dans Le Devoir. Retravaillés, enrichis, parfois entièrement réécrits, auxquels s'ajoutent plusieurs inédits. Bien plus qu'une simple compilation, le recueil tisse ainsi un récit narratif sur la régionalisation de l'immigration au Québec. J'écrivais déjà beaucoup sur l'immigration en région, mais je me rendais compte que le format journalistique ne suffisait plus. Le processus migratoire, c'est long. Il y a l'arrivée, mais ensuite toute la phase d'adaptation, d'acclimatation. Ça ne se résume pas en 4000 caractères, raconte le journaliste. En une centaine de pages, l'auteur propose une représentation du Québec régional d'aujourd'hui. Montréal, Québec, Laval, délibérément écarté. Son objectif a surtout été de braquer les projecteurs sur les territoires oubliés de l'immigration, là où les changements sont moins visibles, mais tout aussi révélateur. Je pense qu'on sait déjà un peu comment ça se passe dans les métropoles, précise-t-il. Il a voulu également capter la plus grande diversité possible d'origine, des Philippins aux gens d'Afrique de l'Ouest, en passant par le Maghreb ou l'Amérique du Sud. Ce souci d'exhaustivité traverse tout l'ouvrage qui donne à lire une mosaïque humaine impressionnante. Chacun a une sensibilité différente, une culture propre. Il y a aujourd'hui des gens de toutes les origines dans presque toutes les régions. C'est hallucinant à quel point c'est rendu large. L'auteur tente de rendre compte de l'immigration en région sans tomber dans la simplification. Chaque parcours est unique, souligne-t-il, et condenser autant de trajectoires en quelques pages représente un réel défi. C'est un exercice un peu difficile, reconnaît le journaliste. Il parvient toutefois à en restituer la richesse en mettant en lumière la diversité des expériences. Dans cette perspective, certaines régions du Québec semblent s'harmoniser plus naturellement avec certaines communautés culturelles, note Jean-Louis Bordeloux. Dans le chapitre « Un vent de changement en Gaspésie », il s'intéresse à l'intégration des travailleurs philippins, aujourd'hui près de 300, à avoir posé leur pénate dans la région. Les Philippins, c'est un peuple maritime. En Gaspésie, ils m'ont paru mieux intégrés qu'en Abitibi. un territoire beaucoup plus forestier, affirme-t-il. Une façon de montrer que l'enracinement passe parfois par une forme d'affinité entre la culture d'origine et les réalités géographiques du territoire d'accueil. Les Italiens, ensuite les Africains et puis les Mexicains. Selon le journaliste, les immigrants ne se contentent pas d'occuper un territoire. Ils le réinterprètent, y inscrivent leurs traditions et en redessinent les contours. Ce qui peut sembler anecdotique devient, sous sa plume, un marqueur d'intégration. La preuve avec son reportage « Jusqu'au bout de la route » sur la Côte-Nord, dans lequel il revient sur l'histoire migratoire de cette île, façonnée dès ses débuts par le boom minier et l'arrivée massive de travailleurs venus d'ailleurs. Parmi eux, la communauté italienne y a inscrit une présence durable. Les Italiens allaient chez les pêcheurs du coin pour demander des poulpes, alors que la majorité des Québécois n'en mangeait pas, raconte-t-il. Un détail éloquent d'une culture qui s'enracine en tissant des liens concrets avec l'environnement local. Avec ces exemples du quotidien, Bordeloup montre comment l'immigration métamorphose les lieux, non pas par rupture, mais par superposition, un lent processus d'adaptation mutuelle où se dessinent, peu à peu, de nouvelles façons d'habiter le Québec. L'immigration est un phénomène en constante évolution, fait remarquer Bordeloup, qui observe aujourd'hui à cette île un passage de relais discret mais chargé de sens. Une nouvelle génération d'immigrants venus d'Afrique de l'Ouest, notamment du Sénégal, s'installe à son tour dans cette ville portuaire. Il revient sur le parcours de Christophe Boucar Diouf, un entrepreneur sénégalais apparenté à son célèbre compatriote de Rimouski. Il a racheté plusieurs bâtiments du centre-ville de cette île, dont l'ancienne boucherie italienne, longtemps au cœur de la vie communautaire. C'est une véritable page d'histoire. Les Italiens ont bâti, maintenant les Sénégalais prennent la suite avec dans leur bagage leurs propres rêves, souligne-t-il. Ce sont ces récits de la vie de tous les jours, souvent laissés en marge des récits historiques officiels, que Jean-Louis Bordeloup s'emploie à faire émerger. J'ai trouvé ça beau. C'est le genre de choses dont on ne parle jamais quand on raconte l'histoire de cette île, alors que, pour moi, c'est fondamental, dit-il. Et ces genres de transformations sont tangibles, perceptibles dans les détails les plus ordinaires. Lors d'un retour à cette île, le journaliste constate que le petit snack où il allait manger sa poutine le vendredi soir a changé de visage. Ce sont désormais des Mexicaines qui accueillent les clients, en servant du guacamole à la place du traditionnel ketchup. Un peu du pays du cèdre au lac Saint-Jean. Partout en province, le fait migratoire laisse son empreinte. En grattant un peu, l'héritage libanais du Saguenay-Lac-Saint-Jean refait surface. Il y a des Libanais au Lac-Saint-Jean depuis 1910. Derrière les patronymes Guimayel, Kalel, Maziad, Armali ou Traboulsi, ce sont des pans entiers d'histoire locale qui surgissent, explique le journaliste. Tout au long de son ouvrage, Bordeloup met en lumière des facettes méconnues du Québec régional. Peu savent, par exemple, que le plus grand temple bouddhiste du pays se trouve dans les Laurentides ou que la communauté russe de Rawdon contribue depuis des décennies à la vitalité des lieux. Ces réalités, souvent ignorées du regard urbain, révèlent un Québec rural accueillant et vivant. Les régions sont beaucoup plus diversifiées qu'on ne le pense, avec des cultures locales fortes, ancrées, souligne-t-il. Il insiste aussi sur le rôle crucial des acteurs de terrain. Il y a des gens qui se démènent corps et âme pour accueillir des milliers de nouveaux arrivants. Et, dans l'ensemble, ces immigrants sont bénéfiques pour les communautés et les entreprises. Mais par-delà les chiffres et les politiques publiques, Bourdelot plaide surtout pour une lecture plus nuancée de l'immigration. Il ne faut pas réduire les régions à des clichés ni les immigrants à des statistiques. Ce sont des êtres humains avec des histoires multiples, rappelle-t-il. D'après lui, tout l'enjeu réside dans cette complexité. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins, mais rien n'est jamais noir ou blanc. L'immigration, ce n'est pas une opération comptable. C'est d'abord une réalité humaine qu'il faut aborder avec justesse et sensibilité. C'était « Les régions du Québec aux 1000 visages de l'immigration », un texte d'Ismaël Oudacine, paru le 26 mai 2025 dans Le Devoir.
Une nouvelle couleur et une percée médicale. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 mai 2025 dans La Presse. Un chercheur ontarien a identifié une nouvelle couleur, une découverte qui pourrait mener à un traitement pour le daltonisme et des maladies dégénératives de l'œil. Nous avons réussi à stimuler seulement une partie de l'œil, explique le neurobiologiste Austin Ruda de l'Université de Californie à Berkeley, auteur de l'étude publiée en avril 2025 dans la revue Science Advances. Monsieur Ruda explique « Ça a activé des photorécepteurs qui normalement ne sont pas activés seuls. Ils correspondent à un vert qui normalement n'est pas visible. C'est vraiment une nouvelle couleur. » La rétine de l'œil contient 6 millions de cônes, des photorécepteurs, qui reçoivent chacun une longueur d'onde différente, correspondant à une couleur différente. Il y a trois catégories de cônes, long, moyen et court. Les cônes stimulés par M. Ruda sont dans la catégorie moyenne. Or, les cônes moyens ne sont jamais stimulés isolément, mais toujours conjointement avec des cônes de catégorie longue ou courte. Cela signifie que la longueur d'onde des cônes moyens, la couleur qu'ils captent, n'est jamais vue par le cerveau. Le but de cette expérience était de savoir si le cerveau, face à des informations sensorielles nouvelles, peut les utiliser pour créer de nouveaux concepts. Si c'est le cas, ça signifie que le cerveau a cette plasticité. C'est encourageant pour le traitement des problèmes de vision, souligne le chercheur. Dans le registre du vert. Mais s'agit-il vraiment d'une nouvelle couleur? C'est la même différence qu'entre le rouge et le rose, répond M. Ruda. La plupart des gens diraient que ce sont deux couleurs différentes. Une chose est sûre, un tel vert n'a jamais pu être vu par un être humain. C'est un vert avec un peu moins de blanc. L'appareil de M. Ruda permet de stimuler en même temps 4000 cônes dans la rétine. Lors de l'expérience qui a permis d'identifier ce nouveau vert, 250 cônes ont été stimulés. Entre 5 % et 10 % des cônes sont courts, le reste, ce sont des cônes moyens et longs. Il y a deux fois plus de cônes longs que moyens, mais c'est variable d'une personne à l'autre, dit-il. Moi, j'ai 1,3 fois plus de cônes longs que de cônes moyens, mais un collègue a 3 fois plus de cônes longs que de cônes moyens. Les trois types de cônes sont répartis partout dans la rétine. Les cônes courts captent généralement les longueurs d'onde autour de 440 nanomètres, correspondant à un bleu-violet. Les moyens, celles autour de 535 nanomètres, correspondent à un jaune verdâtre, et les longs, les longueurs d'onde de 559 nanomètres, vont de l'orange au rouge. À titre de comparaison, M. Ruda indique que le jaune correspond à la longueur d'onde de 589 nanomètres. tout le monde, dit-il, serait d'accord pour qualifier de jaune une longueur d'onde dans une fourchette de 4 à 5 nanomètres de part et d'autre de 589. Les sensibilités spectrales des types de cônes courts et longs chevauchent celles des moyens, ce qui signifie qu'aucune lumière naturelle ne peut stimuler seulement les cônes moyens. La nouvelle couleur détectée par Austin Rhoda correspond à une longueur d'onde de 510 nanomètres. Daltonisme. La découverte pourrait permettre de contrer le daltonisme qui empêche de distinguer le rouge et le vert. Ce trouble, maintenant appelé dichromatisme, est causé par l'absence des cônes longs ou moyens. On pourrait peut-être entraîner le cerveau à percevoir une autre couleur en stimulant seulement certains cônes, dit M. Rhoda. Une autre étape pourrait être une thérapie génique pour créer le type de cône manquant. M. Rhoda estime qu'une couleur pourrait être visible même s'il y a moins de cônes du type manquant que normalement. Le daltonisme touche 1% des hommes et est très rare chez les femmes. Environ 8% des hommes ont une forme mineure de dichromatisme. Certaines femmes, entre 1% et 10%, sont même tétrachromatiques, c'est-à-dire qu'elles ont 4 types de cônes. Ce n'est pas évident sans test, parce qu'il s'agit de 2 types légèrement différents de cônes longs, note le chercheur. Cette technologie pourrait aussi être utilisée pour d'autres maladies dégénératives de l'œil, comme la rétinite pigmentaire, un type de vision en tunnel qui apparaît généralement au début de l'âge adulte et est lié à la dégradation des cônes. Touchant une personne sur 5000, donc vraisemblablement 1500 Québécois, elle est héréditaire. Le nombre de cônes diminue-t-il avec l'âge? Pas beaucoup. Je fais de l'imagerie avec mes cônes depuis plus longtemps que quiconque sur la planète. J'ai eu la chance, en 1996, d'être dans le premier laboratoire au monde à avoir une caméra adaptative capable d'observer les cônes. Et je n'ai perdu depuis 2000 qu'un ou deux cônes sur les 4000 à 5000 que j'ai. L'ambition du scientifique est de stimuler sélectivement les cônes de la fovéa, la partie centrale de l'œil qui sert à la vision de précision. La fovéa ne mesure que 100 micromètres. Elle contient la plus haute densité de cônes. J'ai bon espoir d'y arriver avant ma retraite, confie-t-il. Vision nocturne. Il y a un quatrième type de photorécepteur qui est plutôt appelé bâtonnet. Il sert à la vision nocturne et est beaucoup plus abondant. Il y a 100 millions de bâtonnets dans l'œil que les 3 types de cônes. Les bâtonnets sont très sensibles et donc ne sont pas très utiles le jour parce qu'ils saturent très rapidement, note M. Rhoda. En savoir plus. 10 millions, nombre de couleurs distinctes que peut voir l'œil humain. Source, Université de Waterloo. C'était Une nouvelle couleur et une percée médicale, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 mai 2025 dans La Presse.
Berthe Weil sort de l'ombre. Un texte d'Hélène de Billy, paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des Femmes. Une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal redonne sa place à la marchande de tableaux qui a découvert Picasso. Une opération justice menée par des conservatrices et historiennes d'art en provenance de la France, du Québec et des États-Unis. Petite femme au physique ingrat et au caractère vif, Berthe Weil fut la première galeriste à exposer Pablo Picasso à Paris en 1901. Faute d'espace dans sa galerie, elle avait suspendu l'étoile encore humide du peintre espagnol sur une corde à linge. À lui seul, Ce geste rappelle combien la découvreuse de talent avait du flair et aussi à quel point elle était dénuée de prétention. Jusqu'au 7 septembre 2025, le Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM, lui consacre une grande exposition. Berthe Weil, galeriste de l'avant-garde parisienne, regroupe les peintres phares qu'elle a défendus, dont plusieurs femmes. Parmi la centaine d'œuvres exposées, des chefs-d'œuvre signés Picasso, ainsi que des toiles de maître rarement vues que le MBAM a obtenues grâce à des prêts exceptionnels. Ces tableaux retracent les débuts fulgurants de peintres comme Henri Matisse, Diego Rivera, Suzanne Valadon, Amedeo Modigliani ou encore Toulouse-Lautrec. Une géante des avant-gardes. Figure emblématique de l'avant-garde parisienne, la marchande de tableaux Berthe Weil est née en Alsace en 1865. Cette visionnaire venait d'une famille modeste. Très peu scolarisée, elle a appris son métier dans la boutique d'antiquaire d'un oncle à Paris. Son histoire se confond avec celle des avant-gardes, mais aussi, du côté plus sombre, avec la montée du fascisme et de l'antisémitisme en France. Temps périlleux pour une femme juive. Berthe Weil a néanmoins survécu à la Deuxième Guerre mondiale et à l'occupation. Mais, dans la foulée de la Grande Dépression économique de 1929, elle a été forcée de vendre sa collection personnelle. Durant les 38 années qu'elle consacre au commerce de l'art, tout en exposant des artistes émergents, elle travaille à légitimer le talent des femmes peintres. Un travail de pionnière, fort bien documenté. Or, contrairement à ses collègues compatriotes Antoine Vollard ou D.H. Kahnweiler, elle n'a jamais eu droit à la reconnaissance. Si son jugement était sûr pour jauger ses commettants mâles appelés à devenir des célébrités, il y a fort à parier qu'elle disposait de la même justesse dans le regard pour évaluer le travail de leur vis-à-vis féminin. Or, celles qu'elle a défendues, on n'en sera pas étonné, n'ont jamais atteint sur le marché la cote des ténors du cubisme ou du fauvisme. Enfin, pas encore. Réhabiliter une figure inconnue. Le monde de l'art doit à la Française Marianne Lemorvan le mérite de s'être penchée sur la carrière de la galeriste, d'avoir retrouvé sa trace, d'avoir rendu au monde visible cette figure inconnue du monde de l'art. Commissaire invitée de l'exposition au MBAM, elle a passé près d'une quinzaine d'années à remuer ciel et terre pour assembler les différents fragments du casse-tête Berthe Weil. Une tâche exaltante et parfois ingrate. Pendant longtemps, on m'a dit que mon sujet n'avait aucun intérêt, m'a-t-elle confié lors de la conférence de presse précédant l'ouverture de l'exposition Weil à Montréal. Question d'affinité, peut-être, elle s'est accrochée. Je l'ai tout de suite aimée. Son humour corrosif m'a conquise. Le premier tournant est survenu lorsqu'elle a retrouvé sur eBay l'autobiographie de la galeriste intitulée « Pendant l'œil, 1933 ». Du coup, elle a ressenti le désir de réparer une injustice. Après avoir consacré son mémoire de maîtrise à la galeriste, elle a publié une première biographie de son sujet, Berthe Weil, 1865-1951, la petite galeriste des grands artistes. Au secours des femmes invisibilisées, quand les intellectuels s'en mêlent. Si le nom de Berthe Weil trouve un écho dans le monde actuel, c'est aussi grâce à la solidarité d'un petit clan de femmes occupant des postes importants dans le milieu muséal. D'abord, au Gray Art Museum de la New York University, l'ex-directrice Lynn Gumpert a accueilli l'exposition à sa première étape l'an dernier. Puis, c'est actuellement le Musée des beaux-arts de Montréal qui la présente, où Anne Grace occupe le poste de conservatrice de l'art moderne. Et enfin, au Musée de l'Orangerie à Paris, où l'attachée de collection Sophie Éloi recevra à son tour l'exposition d'octobre à janvier 2026. La détermination et la sensibilité de ces intellectuels ont servi Berthe Weil à merveille. Marianne Lemorvan salue leur audace. « Elles avaient lu mon livre et sont venues me chercher. l'aventure prenait un tour inusité. Juste retour des choses, croit Anne Grace, la conservatrice de l'art moderne du MBAM, qui a beaucoup travaillé à remettre les femmes sur le devant de la scène en art visuel récemment. Berthe Weil a été invisibilisée, d'où l'importance de cette exposition à nos yeux. Berthe Weil était pauvre, une femme d'affaires épouvantable, disait-elle d'elle-même. Elle ne s'est jamais enrichie avec le commerce des toiles qu'elle a exposé et qui était destiné à faire exploser la banque. Un des Modigliani sur ses cimaises autrefois a été vendu chez Sotheby's en 2018 pour 157 millions de dollars. Sa richesse résidait dans ce qu'elle nous a laissé, un vivier de découvertes où nous sommes invités à plonger. Quant à Marianne Lemorvan, elle est sur le point de publier la monographie d'une autre figure méconnue du monde de l'art dont on peut voir 5 toiles au musée, la Française Émilie Charmy, une femme libre que Berthe Weil a exposée 23 fois dans sa galerie. À surveiller sur le plancher de l'exposition. Une valeur sûre, l'étoile de Suzanne Valadon, 1865-1938. Ancienne acrobate devenue artiste autodidacte à la suite d'un accident de trapèze, elle a rejoint le circuit de ses contemporains mâles. La peintre a fait l'objet d'une importante rétrospective au Centre Pompidou à Paris cette année. Signalons également les autoportraits d'Émilie Charmy, 1878-1974, grande copine de Berthe Weil. Deux femmes au caractère diamétralement opposé. L'une physiquement vieillie avant l'âge, l'autre provocante, habitée d'une soif de vivre à toute épreuve. Émilie pourrait être sur le point de faire son entrée dans l'art qu'on expose et qu'on vend à profit. Enfin, le travail d'Hermine David, 1886-1970, artiste qu'on associe beaucoup trop à son mari, le peintre de la vie de bohème Jules Pasquin. Les œuvres d'Hermine, plus discrètes, ont un côté japonais. Précises, gracieuses, patientes, les œuvres sur papier à la pointe sèche exposées au MBAM valent le détour. C'était « Berthe Weil sort de l'ombre », un texte d'Hélène de Billy paru le 13 juin 2025 dans la Gazette des Femmes.